cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph le 13 janvier 1987.
Celui qui est finalisé, ce n'est pas la fin. il est attiré par le bien. Étant attiré par le bien, il aime. Il est lié à la fin. Être délégué, c'est d'être lié à la fin et d'être dans un état de perfection. On pourrait dire que Entelekeia traduit au niveau de la vie ce qu'est Energeia au niveau de l'être. Je crois que c'est assez juste et ça nous aiderait à mieux comprendre la distinction être et vie. À ce niveau de l'acte, un vivant est parfaitement en acte quand il étudie à sa fin. L'être, lui, il est en acte. C'est pour ça que c'est si délicat le passage de l'un à l'autre, et c'est pourtant très important. Mon existence, ma vie, mon être, c'est ma vie. Pour le vivant qui est l'homme, là vous voyez, si mon être, c'est ma vie, mon energeia, c'est mon entelekeia. Ce qui est parfaitement vrai au niveau du vécu. Vous ne vivez l'être en acte que par l'opération ultime de votre vie. Quand vous êtes en contemplation, vous êtes en acte et vous vivez de l'être en acte. C'est pour que vous voyez mieux ce passage qui est difficile, qui est très difficile, parce que Aristote qui invente le Entelekeia ne nous dit pas avec une précision parfaite les deux. Vous pouvez faire l'enquête, c'est une très bonne enquête à faire, ça a été fait du reste, mais c'est très difficile. Alors je crois que pratiquement on peut dire que l'être en acte et le vivant en acte, c'est Energeia pour l'être et Entelekeia pour le vivant. Parce que le vivant, il est en acte dans son immanence de vivant. Tandis que l'être est en acte en tant qu'il est quelque chose d'ultime. L'acte transcende toujours ce qui est en puissance. Immédiatement après la découverte de l'être en acte et de l'être en puissance, il faut comprendre les diverses modalités de l'être en acte et de l'être en puissance. Étant donné la difficulté pour nous de saisir cette division, alors il faut tout de suite saisir ces diverses modalités qui du reste recouvrent toute la philosophie. C'est ça qui est très intéressant à comprendre, c'est que cette division de l'être en acte et de l'être en puissance de fait, se retrouve à tous les niveaux de la philosophie. Et la théologie naturelle affirmera que Dieu est acte pur. C'est vraiment le regard le plus pur que le philosophe peut avoir sur l'être premier. Il est l'acte pur. Oui, c'est bien cette philosophie de l'acte qui me met au sommet de toute la réflexion sur l'être, et donc me permet de passer d'un horizon à l'autre, de l'horizon des réalités que j'expérimente à l'au-delà. Le sens de la transcendance se fait par l'acte, et non pas par la substance. C'est l'acte qui me donne le sens de la transcendance. Et tant que je n'ai pas saisi ce que c'est que l'être en acte, je ne sais pas ce que c'est que la transcendance. Je ne sais pas ce que peut être une réalité qui attire une autre, sans être dépendante de cette autre, puisque c'est le propre de l'acte. L'acte attire et l'acte ne dépend pas. L'acte est souverainement séparé. Et donc, il ne dépend de rien. C'est l'être en acte qui nous dépend et il attire les autres. Ça, c'est le propre, c'est ce qui caractérise être en acte. C'est du reste très beau. alors, dès qu'on saisit cette distinction, on l'applique à la métaphysique. Et on peut dire que la première modalité de l'être en acte, c'est l'exister ou l'essai. Je ne dis pas le fait d'exister, mais l'exister. Et l'exister actue ce qui est capable d'exister. Et ce qui est capable d'exister, en philosophie, ça s'appelle l'essence. Donc, j'ai cette distinction entre exister, essence, essayer, exister, qui m'est tout de suite donnée dans cette distinction de l'être en acte et d'être en puissance. Alors ici, notez uniquement par mode de précision. Saint Thomas précise toujours que l'essai, c'est l'acte d'être. Donc, Saint Thomas précise l'essai par l'acte. C'est pour cela que quand je dis que l'essai, l'exister, est un mode de l'acte, je crois que c'est rigoureusement ce que saint Thomas nous dit. Mais comme saint Thomas ne fait pas de métaphysique pour la métaphysique, il utilise l'essai à droite et à gauche de multiples manières. Vous savez bien, il y a 5 significations de l'essai dans saint Thomas. Avec toutes les erreurs que vous pouvez faire, un pour chaque doigt. 5 modalités d'essai, 5 significations de l'essai. Alors, il faut comprendre que la signification de l'essai, la plus métaphysique, c'est l'acte d'être. Et quand saint Thomas nous dit que l'essai, c'est l'acte d'être, actus essendi, saint Thomas définit l'essai par l'acte. Ce qui veut dire que l'acte est pour lui quelque chose de plus fondamental. Puisqu'on ne définit une réalité par une autre, que si cette autre est plus intelligible. Donc l'acte est plus intelligible pour saint Thomas que l'essai. C'est cela que Gilson n'a jamais compris. C'est ça que Fabreau n'a pas compris. Je dis ça, c'est parce que là, il y a des petites querelles thomistes très intéressantes. C'est toujours intéressant de voir des thomistes qui, fraternellement, sont les uns contre les autres. Alors, il y a eu la vogue, puisque je dis bien, je crois que ça a été quand même une certaine vogue, de dire, saint Thomas a une nouvelle métaphysique, distincte de celle d'Aristote, parce que l'essai chez saint Thomas tient une place très unique. C'est la théorie de Gilson, c'est la théorie de Maritain, c'est la théorie de Fabreau, c'est la théorie du père Geiger. Et donc là, il y a toute une série de thomistes qui disent ça. Alors, il faut y réfléchir, hein, parce que c'est quand même des philosophes intelligents. Fabreau est un philosophe extrêmement intelligent. Gilson, on le sait bien. Maritain également. Et le père Geiger aussi. Alors, c'est intéressant de voir ça. Il se posait le problème à propos de l'acte. Ils disent que dans saint Thomas, il y a une nouvelle métaphysique, parce qu'il y a la métaphysique de l'essai. Personnellement, je crois que ce n'est pas juste. La métaphysique de l'acte est présente dans Aristote, elle est présente dans saint Thomas. Et c'est la métaphysique de l'acte qui fait comprendre ce qu'est l'essai, que saint Thomas emploie beaucoup plus l'essai qu'Aristote, et qu'il l'emploie dans une signification nouvelle, c'est normal, parce qu'il est un théologien. Un théologien regarde l'imagination fait que vous pouvez regarder, laissez participer. Mais laisser participer n'est pas objet d'expérience. Vous n'avez jamais expérimenté votre laisser participer. Du moins, je crois. Si vous l'avez fait, vous me le direz. Parce que ça m'intéresserait beaucoup. Parce qu'il y a un cas très particulier d'avoir expérimenté laisser participer. Si j'expérimente mon laisser participer, j'expérimente Dieu. J'expérimente l'acte créateur de Dieu. Et si on pouvait expérimenter l'acte créateur de Dieu, vous comprenez que tout de suite le problème de l'existence de Dieu alors devient extrêmement facile. Et je dirais tout simplement que ceux qui nient l'existence de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas l'expérience de Dieu. Alors que saint Thomas le dit, l'existence de Dieu, on ne l'atteint que par démonstration a posteriori. Sauf qu'il l'affirme nettement. De sorte que saint Thomas reconnaît que l'essai de la créature n'est pas atteint directement, il est atteint dans une perspective d'une conclusion de sagesse. Dans une conclusion de sagesse, j'affirme que j'ai un essai participé. Mais je ne saisis pas directement cet essai participé. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important. Pour la compréhension d'Aristote et pour la compréhension de saint Thomas. Quand Gilson disait, il y a dans saint Thomas une nouvelle métaphysique, je lui posais la question, dites-moi le principe propre de cette nouvelle métaphysique. Parce que pour saint Thomas, il ne peut y avoir de nouvelle science que s'il y a saisi de nouveaux principes. Alors, je ne semble jamais dit. Quand je disais ça, ne soyez pas trop précis, n'analysez pas trop. Je dis, il faut bien analyser, puisque la métaphysique est une science. Il faut bien savoir les principes propres de cette science. Or, je crois qu'il n'y a que deux principes propres de cette science. L'ousia et l'énergéia. La substance et l'acte. Il n'y en a pas d'autre. Et je n'ai jamais trouvé dans un Thomas d'autre. Parce que le principe de non-régressus à l'infini est un principe qui est beaucoup plus une loi qu'un principe. Puisque c'est saisi en critique et non pas en métaphysique. Donc c'est une loi. C'est une loi très très profonde du comment de l'être et du comment de la causalité. La causalité se présente à nous de cette façon. Qu'on ne peut pas remonter à l'infini. Donc, réfléchissez là-dessus. Est-ce que dans saint Thomas, l'essai nous fait comprendre l'acte? Ou est-ce que c'est l'acte qui nous fait comprendre l'essai? Autrement dit, l'ordre qui existe entre les deux. Et quand je dis que l'essai est le premier mode de l'acte, je veux dire que l'essai, nous ne pouvons l'atteindre dans ce qu'il a de tout à fait propre, qu'à partir de l'acte. Et c'est pour ça que j'ai parfaitement le droit de dire que l'essai, c'est l'acte essenti, actus essenti. Second mode de l'acte, la bonté. Troisième mode de l'acte, la vérité. Quatrième mode de l'acte, les opérations vitales. Et cinquième mode de l'acte, le mouvement. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas d'autre. C'est important, au point de vue critique, de se demander s'il ne pourrait pas y avoir un autre mode de l'acte, la beauté. Est-ce que le beau n'est pas un mode de l'acte? Je ne crois pas. pas entrer dans cette question là encore, mais c'est une question aussi très importante. Alors, je reprends, hein, parce que je vois qu'il y en a qui pataugent. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans l'être en puissance, parce qu'il n'y a rien de tel pour patauger que de rester dans l'être en puissance. Alors, l'être en puissance par rapport à l'essai, c'est la capacité d'exister. L'être en acte en tant que bien, c'est la modalité de l'être en acte au niveau de l'esprit. L'esprit est capable d'atteindre le bien. Et ce qui est en puissance vers le bien, c'est notre faculté de volonté. Nous sommes en puissance à aimer. Nous sommes en puissance à être attirés par le bien. Nous avons cette capacité par l'appétit volontaire. La troisième modalité, c'est le vrai. C'est encore pour l'esprit, c'est pour l'intelligence. L'intelligence est en acte dans la vérité. Et ce qui est capable d'atteindre la vérité, c'est notre opération intellectuelle, notre capacité de connaître. L'opération vitale vient actuer nos puissances vitales. Et c'est à partir de l'opération vitale qu'on pose les puissances vitales, qu'on fait le séminaire de vendredi. Et le mouvement actue le corps physique. Toutes les réalités physiques sont actuées par le mouvement. Le mouvement, c'est le mode particulier de l'acte dans le monde physique. Donc nous avons là quatre modalités. Chacune de ces modalités implique pour nous la possibilité de saisir les diverses modalités du principe de finalité. Et ça, c'est très important. Vous avez donc cinq modalités pour saisir le principe de finalité. Vous savez exactement, oui, cinq modalités. Ce qui est capable d'exister dépend de l'exister ou est ordonné à l'exister. Tout ce qui est capable d'aimer dépend du bien. Tout ce qui est capable d'atteindre la réalité est mesuré par le vrai, dépend du vrai. Capacité vitale, toute puissance vitale est ordonnée à son opération. Et tout corps est en acte par le mouvement. Oui, cinq modalités. C'est très important pour nous de saisir cela. Étant donné la difficulté que nous avons de saisir le principe de finalité. Alors, je n'insiste pas plus, mais je crois que c'est très important de bien saisir cela. Parce que vous comprenez tout de suite, j'espère, que s'il y a cinq modalités pour saisir le principe de finalité, il y aura donc cinq voies de dépassement. Puisque toujours la finalité me permet le dépassement. Et la finalité seule permet le dépassement. Après le problème de l'être en acte et en puissance, il faut entrer dans ce grand problème philosophique, métaphysique, de l'un et du multiple. Vous voyez, je le situe là. Remaker, quand il enseignait à Louvain, disait qu'il fallait commencer la métaphysique par le problème de l'un et du multiple. Je veux bien. On peut discuter là-dessus. Mais quand on commence la métaphysique par le problème de l'un et du multiple, on décrit l'un et le multiple. Et Rémaker avait raison de dire cela en ce sens que le problème de l'un et du multiple, c'est le problème œcuménique de la métaphysique. Tous ceux qui font de la métaphysique reconnaissent que le problème de l'un et du multiple est un problème capital, essentiel. C'est très vrai. L'aristotélisme, comme le néoplatonisme, reconnaît l'importance du problème de l'un et du multiple. Mais la très grande différence, c'est que pour le platonisme, le problème de l'un et du multiple, c'est le problème ultime. Pour l'aristotélisme, c'est un problème second, tout en étant essentiel, et donc capital, dans ce sens-là. Le grand problème, dans une perspective réaliste, c'est l'acte. Le grand problème dans une perspective du néoplatonisme, Platon, c'est l'un. Et l'acte est situé dans l'émanation de l'un vers l'être, vers l'intelligence. Vous voyez les grandes processions, grandes émanations plotiniennes. Le passage de l'un à l'intelligence se fait par l'acte, l'énergéia. Alors en théologie, on trouverait des positions analogues de platoniciens. C'est très curieux et c'est très intéressant de voir ça. De voir que l'un va être le problème frontière entre l'aristotélisme et le néoplatonisme. Pour le néoplatonisme, le problème de l'un est ultime. On ne peut pas aller au-delà de l'un. Pour l'aristotélisme, on va au-delà de l'un et on découvre l'acte. Et l'un, c'est l'acolyte de l'être, c'est-à-dire ce qui suit l'être. La conséquence de l'être, la conséquence de la substance, la conséquence de l'acte, ça suit l'être, c'est une propriété, l'un. Et le multiple est une propriété des accidents, de l'être relatif. L'être relatif est essentiellement multiple. Alors que l'être, dans la mesure où il subsiste, dans la mesure où il est en acte, est un. Vous voyez, là, il y a un problème extrêmement intéressant au point de vue historique. Faire une topique de l'un et du multiple, c'est extrêmement révélateur, une topique historique, pour voir toutes les positions des philosophes sur l'un et le multiple. C'est extrêmement intéressant. Vous voyez, dès que Parménide découvre l'être, il dit l'être est un. Et si vous regardez les pythagoriciens, pour les pythagoriciens, le grand problème, c'est le problème de l'un. Et à la suite des pythagoriciens, le grand problème philosophique, c'est le problème de l'un. Regardez le Parménide de Platon. C'est le problème de l'un. Le Parménide de Platon, c'est le problème de l'un. Et c'est tout le problème de la dialectique. C'est ça qui est aussi très intéressant. Si vous mettez l'un au-dessus de l'être, vous mettez la participation au-dessus de la causalité. Si vous mettez l'être avant l'un, vous mettez la causalité avant la participation. Il y a des connexions comme ça au point de vue de l'intelligence des diverses philosophies qui sont extrêmement nettes et qui se manifestent à nous parfaitement par le problème de l'un et du multiple. Donc retenez au moins ça, c'est que le problème de l'un et du multiple est un problème qui nous révèle les positions philosophiques. C'est pas étonnant, hein. Si l'un Et donc il est tout à fait normal que ce soit le problème de l'un et du multiple qui soit le problème le plus révélateur d'une philosophie et d'une métaphysique. Le problème de l'un et du multiple se retrouve à travers toute la philosophie. En philosophie de la nature, en philosophie du vivant, en philosophie éthique, en philosophie du vachéré, tout. Et quand on regarde une œuvre d'art, on regarde son unité. C'est la première chose. C'est très curieux, ça. L'un, c'est ce qui manifeste l'être. L'un, c'est ce qui nous manifeste l'être en acte. L'être substantiel. Et le multiple nous manifeste le chaos des accidents. La multiplicité. L'anarchie. On est dans le multiple. Et au plan politique. C'est très cru. Et ça, c'est très important et très intéressant de saisir ça. Parce qu'il y a là un problème qui est important pour nous. Alors, vous voyez, d'autre part, au point de vue épistémologique, au point de vue critique, la philosophie première est science dans la mesure où elle nous fait connaître la propriété de l'être. Une connaissance n'est scientifique que quand elle conclut sur la propriété à partir des principes. Et donc, cette étude de l'être un et multiple qui nous permet de dire que la philosophie première est scientifique. Parce que c'est à partir des principes de ce qui est que je conclue que l'être est un. Je peux dire tout ce qui est dans la mesure où il est substance, est un. Tout ce qui est dans la mesure où il est en acte, est un. Voyez la conclusion. Et je peux dire aussi, tout ce qui est dans la mesure où il est accident et multiple. Tout ce qui est dans la mesure où il est en puissance est multiple. Je suis donc là en présence de la connaissance métaphysique dans son état scientifique. Et tant que je n'ai pas atteint l'un et le multiple, je dis, je suis en présence d'une science qui se recherche. Vous savez ce que dit Obank quand il dit la philosophie première chez Aristote n'est pas arrivée au stade scientifique. Parce qu'il n'a pas compris que l'un est acolyte de l'être, c'est-à-dire propriété de ce qui est. Alors évidemment, quand on saisit simplement les principes, on n'est pas devant une science. La connaissance scientifique, c'est une connaissance qui se fait de la réalité à partir de ses principes propres et dans la lumière de ses principes. La réalité, c'est l'homme que j'étudie. Et c'est l'homme que je veux étudier. En philosophie, en métaphysique, c'est l'homme vu en tant qu'être. Et si je veux connaître scientifiquement ce qui est, je dois le connaître à partir de ses principes propres. C'est-à-dire à partir de la substance et à partir de l'acte. Alors maintenant, nous sommes à pied d'œuvre pour entrer dans le problème de la personne. Nous aborderons ça demain.